Alors, les miracles de Jésus, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'il y a, un empêchement au miracle. Il y a un facteur qui fait qu'il y a des miracles qu'il n'y en a pas, et c'est quoi? Incrédulité. Dans sa propre ville, il arrive dans sa synagogue, il est élevé, hein, il a passé toute sa vie, et puis on va lire tantôt le texte qu'il a lu, et puis l'incrédulité des qui empêche, hein, il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Alors, il y a comme un terrain propice pour les miracles, et c'est la foi. Dans notre société québécoise, on a mis Dieu dehors, hein, avec la religion, on a tout mis ça dans le même paquet, et aujourd'hui, toutes les religions sont mauvaises. Un grand merci à Allah et à l'islam, je pense, qui nous ont pris notre Dieu, le Père, puis ils l'ont descendu au niveau d'Allah. Ils ont pris Jésus, puis ils l'ont descendu au niveau de Mahomet. Ils ont pris la Bible, ils ont descendu ça au niveau du Coran. Tout ça, ça se ressemble. Je suis en colère. tout ça, ça vaut la même affaire. Alors, yark. On vit dans un monde difficile, en tout cas pour moi. Alors, c'est l'État maintenant qui a pris la place et qui décide qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. L'État a mis la religion dehors et c'est l'État qui décide maintenant qu'est-ce qui est bien, qui est mal. Et il n'y a pas de Dieu qui va venir nous dicter quoi faire, que ce soit Jésus, que ce soit Allah. On va décider nous-mêmes de ce qui est bien pour nous. Alors, c'est un peu le courant dans lequel on nage dans notre société maintenant. Et ça explique, en tout cas en partie, pourquoi il n'y a pas ces miracles-là autant que dans le temps de Jésus. Il y a dans Jean aussi, c'est Thomas. Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors ça, c'est qui ça? C'est nous, hein? Et Jésus dit heureux, béni, c'est le même mot, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit, les miracles écrits dans le livre, dans les évangiles en particulier, dans la vie de Jésus, ces miracles-là ont été écrits afin que nous croyions. Alors, si on cherche une base pour notre foi, il n'y a rien qui est comparable au miracle que Jésus a fait dans les évangiles. D'accord? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, on a vu ça, que les récits du Nouveau Testament, c'est la base sur laquelle on peut être basé notre foi et dire, ça, c'est de Dieu. Hein? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Voici les preuves, voici les prodiges qui l'ont accompagné. Jésus avait la puissance sur la nature, hein, sur les forces de la nature. Des exemples de ça? Il a calmé la tempête. Marcher sur l'eau. C'est au-dessus de la nature, ça, hein? Multiplier les pains, hein? Alors, au noces de Cana, il y a le vin l'eau qui est échangée en vin. Alors, il y a des miracles comme ça qui prouvaient que Jésus était vraiment Dieu. Et puissance sur le mal, comment est-ce qu'on voit ça? Chasse les démons, chasse les mauvais esprits. Puissance sur la maladie, comment on voit ça? Tous les malades qui sont guéris, hein, qui allaient le voir. Puissance sur la source de la maladie, c'est quoi la source de la maladie? Le péché. Puissance sur la conséquence de la maladie qui est la mort. Alors Jésus est venu prouver à l'humanité qu'il était tout puissant, qu'il était Dieu. Hein? Il a attesté, il a authentifié, et il a transmis ça aussi, cette puissance-là, on pourrait dire, là, transmise aux apôtres en particulier, disciples en général, mais les apôtres en particulier, il dit qu'on est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même est la pierre de l'angle. La pierre de l'angle, c'est dans une colline, t'as une grosse roche, et puis, tu as toutes les pierres de fondation qui s'appuient sur la pierre de l'angle qui empêche l'édifice de s'écrouler. Alors, les apôtres ont joué un rôle primordial dans l'établissement de l'Église, et on va le voir tantôt dans qu'est-ce qui est la base de notre foi. Dans Hébreux, il dit, ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur Jésus lui-même, c'est presque un commentaire d'Éphésiens. Ceux qui l'ont entendu, donc les apôtres, les sept des apôtres, mais quelques autres aussi, en ont ensuite confirmé la validité pour nous, et Dieu a authentifié ou appuyé leur témoignage à eux, qui ont entendu Jésus de leurs oreilles, par des signes, des prodiges et des miracles variés, par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Alors, les apôtres ont joué un rôle fondamental. Leur enseignement, leur témoignage devait avoir le sceau de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. Une fois que l'enseignement des apôtres a été rédigé, a été écrit, ce qui nous a donné le Nouveau Testament, une fois que les Écritures inspirées de Dieu, ça devient la parole de Dieu et il n'y a pas d'autre autorité. Il n'y a personne sur terre qui a une autorité égale aux Écritures, même s'il faisait des miracles, des signes et des prodiges. Personne peut mettre sa parole aujourd'hui au même rang que la Bible, la parole de Dieu. Jésus nous a averti qu'il y aurait des faux Christs qui allaient faire des miracles, mais l'important c'est qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que leur témoignage est conforme aux Écritures? Les Écritures sont notre seule, sola scriptura, notre seule règle de foi et de pratique. Hein? Règle de doctrine et de pratique. C'est ça qui est notre autorité. Paul il dit même, si un ange du ciel, si moi-même je vous apparais, et puis que je vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, maudit de Dieu. Hein? Alors, là où les apôtres sont passés, si on regarde dans les actes des apôtres, qu'est-ce que les apôtres, une fois qu'ils avaient passé, qu'est-ce qu'ils laissaient derrière eux? Des églises dirigées par des anciens. Hein? Il y a comme une forme différente qui a pris place. Et les anciens, leur critère, c'est qu'ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres. Pendant une certaine période de temps, c'était oralement, mais ensuite, c'était par écrit. Les Écritures devenaient la base de la foi. Autant il y a des signes, des prodiges et des miracles dans les évangiles, 60 sur 77, 60 fois, si vous prenez le mot prodige, signe, miracle, vous allez le retrouver dans les évangiles. Vous avez 17 fois dans les actes, les évangiles et les actes. Et vous en avez, sur 77, vous en avez 17 qui sont dans les épîtres. Et là-dessus, on a la moitié qui réfère aux évangiles et aux actes. Alors, on peut dire, il y a une concentration de miracles exceptionnels dans les évangiles, dans les actes, qu'on ne retrouve pas ailleurs, ni dans l'histoire de l'Église. Alors, on a terminé la semaine dernière avec deux conclusions, deux extrêmes à éviter, c'est quoi? Les miracles, c'est fini? Hein? Ouais. T'as l'autre extrême, ok. Alors, les miracles, c'est fini, c'est plus possible. Dieu fait plus de miracles. On met Dieu dans une boîte, là, et puis il peut plus intervenir. Alors, ça, c'est un extrême. Et l'autre extrême? Ouais. S'il n'y a pas de miracle, si Dieu ne fait pas de miracle, c'est louche. Et on devrait se culpabiliser, on devrait se taper dessus parce que il n'y a pas de miracle. Hein? Régent n'est pas guéri, alors on devrait se sentir coupable, se condamner. Et Jacques, la même chose. On va voir ça tantôt. Alors, juste avant de continuer, la position entre les deux, j'ai pensé regarder une définition dans Larousse. C'est quoi un miracle? Alors, il y a cinq définitions. La première, c'est la définition, on pourrait dire, chrétienne. N'est-ce pas? Phénomène interprété comme une intervention divine. Le mot miracle, c'est Dieu qui intervient d'une façon incroyable dans notre vie. À notre petit groupe, jeudi passé, chacun va être capable de témoigner que Dieu était intervenu d'une façon spéciale. La semaine passée, je vais parler de la guérison de Jonathan quand il était 2-3 mois. Alors, on a tous des témoignages que Dieu est intervenu d'une façon miraculeuse, on peut dire. Une intervention spéciale de Dieu, je peux dire. Ça, c'est pas explicable. Mais, dans le langage courant, on peut dire quelque chose qui suscite l'admiration. Les miracles de la science. C'est vrai, hein? Chaque fois, je vois un énorme avion qui atterrit à Dorval. Comment que ça fait, ça? Tu sais, on recule il y a 2 minutes et on voit passer ça, là. Ouais. Et puis, c'est juste l'Internet, tu sais, Skype, là. L'autre est à l'autre bout du monde, puis tu l'as devant toi. Écoute, c'est quoi ça? Chose merveilleuse, hein, le Parthénon, un miracle d'architecture. Il y a des œuvres à Dubaï, là, les affaires qu'ils sont en train de faire. Un hasard, une chance exceptionnelle. Hein, c'est un miracle qui a échappé à la mort. Et en apposition, indique que quelque chose est inattendu, surprenant dans son efficacité. Un médicament miracle, quelque chose qui produit un effet. Alors, ça, c'est le Larousse, le langage familier, et je pense qu'on peut l'appliquer aussi dans notre foi. Mais tu as le dictionnaire biblique qui donne la définition du miracle, intervention surnaturelle dans le monde extérieur qui apporte une révélation de la présence et de la puissance de Dieu. Alors, c'est pas juste quelque chose d'extraordinaire qui s'accomplit, mais c'est Dieu qui intervient dans ma vie. Nouveau Testament, il y a des mots grecs, là, dynamis, et puis terata, puis semeia, les actes de puissance, des prodiges, des signes, mais ce qu'ils rajoutent, c'est à quelles époques se produisent les miracles. Et ils ont 4 époques où il y a eu des miracles qui sont concentrés. Nous, on pense que dans l'Ancien Testament, Dieu a fait constamment des miracles, mais c'est pas le cas. Il y a juste quelques personnes privilégiées, quelques époques privilégiées où ça s'est produit. Donc, Moïse et Josué, hein, il y a des miracles assez extraordinaires. Le temps d'Élie, d'Élisée, la pluie qui n'a pas tombé pendant 3 ans et d'autres choses comme ça. Daniel dans la fosse aux lions, une intervention de Dieu. Et finalement, le début du christianisme dans les évangiles, accréditer la personne du Fils de Dieu, son œuvre salvatrice, pour confirmer la fondation de l'Église, la mission des apôtres. Alors, si vous me lapidez, il va falloir... c'est à peu près ce que je crois. Et ils ajoutent aussi que, en dehors de ces périodes-là, il y a des hommes de Dieu remarquables qui ont vécu sans accomplir de miracles. Abraham, David, Jean-Baptiste, il n'y a pas de miracles. Abraham, peut-être le fait qu'il y a eu Isaac à 99. Notre époque, alors, il y a des gens qui ont les dons d'opérer des miracles et des guérisons. J'aurais aimé ça continuer là-dessus. Mais ce qui est intéressant, n'oublions pas cependant que de telles manifestations doivent être en accord complet avec la parole de Dieu. Notre autorité, comme je disais tantôt, c'est la parole de Dieu. Et que d'autre part, elles ont été absentes de certaines époques, même de réveil et du ministère de très grands serviteurs de Dieu, comme les réformateurs Hudson Taylor, Spurgeon, Moody, pour ne citer que ceux-là. Il n'y avait pas de miracle vraiment spectaculaire qui accompagnait des réveils puissants, là, des villes entières qui venaient au Seigneur. Billy Graham, hein? Ouais, on pourrait l'ajouter. Alors ça, c'est le contexte des des réveils. Et la raison pour laquelle je mets pas Dieu dans une boîte, pour les théologiens, là, je suis pas cessationniste. Et la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle je pense qu'il pourrait y avoir encore aujourd'hui des signes, des prodiges, des miracles pour appuyer la parole de certaines personnes, c'est dans l'Apocalypse. Il y a 2 témoins qui s'en viennent avec le don de prophétiser pendant 1260 jours. Ça, c'est, je vous laisse l'interprétation. 3 ans et demi. Mais ça décrit quelle période. Alors, pour moi, c'est, disons que à la fin des temps où il y a deux prophètes qui vont s'en venir, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie. Ça ressemble à donc des miracles du calibre de Élie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, frapper la tête de cette espèce de plaie. Ça rappelle Moïse. Alors, il y a deux prophètes qui devraient venir et qui vont avoir cette autorité-là que les apôtres avaient. Et je pense qu'on ne pourra pas se tromper là. À ce moment-là, les chrétiens vont voir que ces personnes-là vraiment parlent au nom de Dieu. En tout cas, peut-être un peu dans la science-fiction, là, mais c'est quand même dans l'Apocalypse. Un autre point important, c'est les miracles ne produisent pas la foi. Les miracles ne produisent pas la foi. C'est pas parce que il y a des miracles que les gens vont croire plus. Hein? La foi, ça ne fait que révéler ce qu'il y a là. Ça ne fait que confirmer que les personnes ont la foi. Les pharisiens, ils s'arrachaient les cheveux pour essayer de minimiser le miracle, et quand ils ne pouvaient pas, ils attribuaient ça à Belzébuth, ils attribuaient ça au démon. Parce que ça voulait dire que Jésus était vraiment ce qu'il disait, le Fils de Dieu, puis ça, il n'est pas capable de le prendre. Pierre a vu Jésus, lui. Hein? Puis il dit, vous autres, vous ne l'avez pas vu. Et pourtant, vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant, vous croyez en lui. Pierre, il n'en revient pas de la foi des chrétiens qui n'ont pas vécu cette époque-là avec Jésus. Hein? C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, car vous êtes assurés de remporter le salut de vos âmes comme prix de votre foi. Hein? Une allégresse indicible. Si on a des émotions, hein? Et Pierre, ça, il n'en revient pas. Que des gens qui n'ont jamais vu Jésus aient une foi solide comme ça et qui, ça produit une joie immense dans les cœurs. Donc, que Dieu se manifeste par des miracles extraordinaires, on ne peut que dire, waouh, hein? N'importe quand, Seigneur, si tu veux qu'on aille marcher sur le fleuve tantôt, j'ai aucun problème avec ça, hein? La première page des journaux, puis le Québec se convertit. Non. Ça marche pas comme ça. Mais ce qu'il dit ici, c'est ce qu'il dit à Thomas qu'on a vu tantôt. Heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. Il y a une bénédiction supérieure à ceux qui n'ont pas vu de miracle. Puis qui croient. Hein? Alors oui, Seigneur, faisant, mais si t'en fais pas, là, ça valorise, c'est supérieur. Si on continue à croire, avoir confiance en Dieu, avoir confiance qu'on va avoir le salut de nos âmes pour l'éternité. Alors, contraste frappant dans les Écritures, dans les Épîtres en particulier. Regardez bien ça. C'est Paul qui, dans Romains, parle aux Romains puis dit, grâce à Jésus-Christ, je suis fier de mon travail pour Dieu, car si j'ose parler, c'est seulement de ce que le Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Les non-juifs. Parmi des non-croyants. Il l'a fait par mes paroles, par mes actes, par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges, c'est-à-dire par la puissance de l'Esprit de Dieu. Paul a été l'instrument à travers lequel les gens ont été guéris, il y a eu des signes extraordinaires. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu'en Illyrie, en rayonnant en tous sens, j'ai fait partout retentir l'Évangile de Christ. Wow! Mais regardez bien ça. Oui, bien sûr. C'est le point, il choisit le point le plus loin de Jérusalem. Ah oui? On a un docteur, hein? Pas juste en médecine. Ouais, probablement que c'est. Il dit jusqu'en Illyrie, c'est parce qu'il est allé au plus loin dans ses voyages. Ouais. Alors, Paul, il témoigne qu'il y avait une puissance extraordinaire qui accompagnait son message. Mais regardez pour lui-même. Hein? Paul, est-ce qu'il chassait les démons 3 fois puis attendait où il guérissait 3 fois? Non. Il dit 3 fois. J'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il y avait comme une maladie avec un ange de Satan qui essayait de le décourager. Hein? 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, t'as un Paul qui prêche l'Évangile, fait des miracles, puis il y a une maladie des yeux probablement qui le rendait laid ou hideux devant... Tu sais, comment tu peux prêcher l'Évangile quand tu fais peur au monde? Alors, ou quelque chose de semblable, il y avait quelque chose qui le hantait, puis le Seigneur ne le guérit pas. Il dit, ma grâce te suffit, supporte cette maladie-là. Et cette maladie-là a un but. Hein? Philippiens, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, son compagnon d'œuvre, co-ouvrier avec Paul, là, et de combat, hein, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pouvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous avez appris, sa maladie. Il était malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié. Comment? Est-ce que Paul n'aurait pas pu, d'un claquement de doigts, arrêter la maladie? Il était malade à la mort, donc une longue période où il était malade, et Paul semblait être impuissant dans cette... Mais Dieu, finalement, qui a pitié de lui. Éraste est resté à Corinthe. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Paul, où ils sont tes pouvoirs? Tu laisses ton ami malade. Et à Timothée, il dit, cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Des aliments naturels, des calmants naturels. Hein? Mais tous les médicaments, si je me trompe pas, docteur, ça vient de la nature, ça vient de... Hein? Je me trompe? Oui, non, mais c'est dans la nature, ça. À cause de ton estomac, tes fréquentes indispositions. Alors, il y a de la place pour, hein, la maladie, je pourrais dire. Les traitements naturels, il y a de la place pour ça. Les traitements, la médecine, il y a de la place pour ça. Alors, on arrive à la troisième possibilité, c'est que les miracles ont un rapport étroit avec le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, ça ne change pas. Quelle était la motivation de Jésus quand il faisait ses miracles? Prouver qu'il était Dieu. Prouver que sa parole était la vérité. Mais prouver aussi quelle sorte de Dieu? Quelle sorte? Parce qu'il y en a toutes sortes de Dieu. Alors, qui est Dieu? C'est quoi la nature de Dieu? C'est quoi le cœur de Dieu? Alors, à travers ces miracles, on va le voir, Jésus, la motivation de Jésus, c'était quoi? La réaction de Jésus, quelle est la réaction de Dieu envers quelqu'un qui est malade? Compassion. Compassion. Jésus n'était pas capable de voir un malade sans être ému de compassion. Hein? Il vit une grande foule, il en eut compassion, il guérit les infirmes. j'ai compassion de cette foule parce qu'elle n'a pas à manger. Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux et recouvrèrent la vue. Je pense que j'en ai d'autres. Jésus, ému de compassion, étendit la main, toucha et dit, « Sois pur. » La veuve de Naïm, il eut compassion d'elle, il dit, « Ne pleure pas. » Et le texte par excellence, hein, son ami Lazare. Quand Jésus vit que Marie pleurait, que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit dans son esprit et fut troublé. Ça, c'est Dieu, là. C'est quoi la réaction de Dieu en face d'un malade? Il frémit en son esprit et fut troublé. Où est-ce que vous l'avez mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura, les Juifs dirent, oh, il l'aimait, celui-là. Hein? Donc, un élément essentiel dans la guérison, c'est la compassion de Dieu, que Dieu aime. Il est ému de compassion. Et on a, dans sa ville, à Nazareth, on lui remet le livre pour faire la lecture dans sa synagogue. Il trouve ça dans Ésaïe, il trouve Ésaïe. Et il nous décrit, le Messie, il nous décrit le cœur de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont leur cœur brisé. Alors, il guérit pas juste le corps, l'enveloppe extérieure. Il guérit le cœur. La bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui sont démunis, ceux qui n'ont pas les moyens. Aux captifs, la délivrance, ceux qui sont pris peut-être dans des prisons humaines ou même des situations terribles. Les aveugles recouvrent la vue. Renvoyer libres les opprimés pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il y a dans sa synagogue, dans sa ville natale. Il dit, voici ma mission. Voici le Dieu que je suis. Voici le Dieu que je représente. C'est celui qui est venu ici pour guérir toutes les maladies. Hein? Et la prophétie d'Ésaïe, elle s'accomplit. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Dans Ésaïe, ça c'est dans Matthieu, dans Ésaïe, la citation, le texte dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Matthieu interprète les souffrances et les douleurs qui ont un contexte plus général, puis il applique ça à la maladie physique. Il a chassé des esprits et guéri les malades, les infirmités et les maladies. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, ça c'est dans Ésaïe, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Puis dans Psaume, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Alors, il y a une équation, là. Hein? Les mathématiciens, là, 1 plus 1 plus 1 égale 3. Hein? Il y a un lien direct, une équation qu'on peut faire entre la maladie, toute souffrance, nos fautes, nos crimes, hein, comme c'est nos péchés, et le châtiment, les meurtrissures de Jésus. Il y a une équation entre les trois. La maladie, nos péchés, et la croix de Jésus, les meurtrissures de Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, on a un tout inclus. Hein? Quand tu fais un voyage, tu as un tout inclus, là. Ben, quand Jésus est mort sur la croix, là, on a reçu un tout inclus. Un voyage tout inclus vers le ciel. On comprend bien le pardon. Hein? Le pardon, il a été accompli il y a 2000 ans. Sur la croix, lorsque Jésus est mort. Ça veut dire que tous mes péchés de A à Z, de ma naissance jusqu'à la mort. Jésus a pris ça, il a mis ça sur lui. On comprend ça. J'étais pas là, j'étais pas né, mais Jésus est en train de mourir pour mes péchés sur la croix il y a 2000 ans. Hein?
Tout inclus.
Tout inclus. Ouais. J'ai été lavé, purifié, justifié, sanctifié une fois pour toutes par le sacrifice de Jésus sur la croix. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans, moi? T'es pas là. Mais j'étais là. Hein? Nous sommes morts en Jésus-Christ. On était là dans le plan de Dieu. Hein? Parce que pour Dieu, il n'y a pas de temps. Ouais. Alors, on n'a plus de péché, mes frères et mes sœurs. C'est bon? On est parfait. Peut-être les conjoints peuvent témoigner. Plus. Ici, le dimanche, c'est sûr, tout le monde est parfait. Mais non, je pêche encore. Et si quelqu'un a péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Celui qui confesse son péché reçoit le pardon qui a été accompli il y a 2000 ans. Il est appliqué maintenant à ma situation présente, hein? Et je peux goûter, je peux expérimenter la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu pour mon péché. Hein? La perfection, ça s'en vient. La perfection totale, ça s'en vient. On comprend ça. Dans tout inclus à la croix, il y a le pardon des péchés. Il y a une autre chose qui est inclue à la croix. La guérison de l'âme qui est inclue à la croix. Ce qu'on pourrait traduire par souffrance ou douleur. C'est plus général qu'une souffrance physique, là. Est-ce que Jésus a eu mal? À l'âme? Mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est triste, ça. Hein? Jésus a vécu des angoisses au point où il a sué du sang, là. C'est extrême. La souffrance que Jésus a endurée, la douleur que Jésus a endurée avant la croix. Il était dans le jardin de Gethsémané. Des souffrances morales, des souffrances émotionnelles, des souffrances mentales, des souffrances psychologiques. Et sa plus grande douleur, c'était séparation. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a ressenti sur ses épaules. Lui qui était saint, pur, parfait, il était tout sali de cochonneries que j'ai faites. Et ça, ça l'écœurait. Dieu ne peut pas vivre dans la présence du péché. C'est écœurant. Hein? On voit aux nouvelles des affaires écœurantes, là. Et on est des humains qui apprécient pas tout le mal qui était fait. Tandis que Dieu, lui, il voit tout le mal qui était fait. Et il a porté ça sur lui, et il savait la conséquence. La conséquence, c'est qu'elle est, Dieu allait être déchiré en Dieu. Dieu qui est infini allait être séparé, déchiré en Dieu. Alors, dans le tout inclus, là, il y a toutes nos douleurs. Jésus a dit, j'ai porté vos douleurs. Il y a 2000 ans, là, Jacques, c'est ce que j'ai dit à Jacques vendredi. J'ai dit, Jacques, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul dans ta douleur. T'es pas tout seul, Jacques, dans ta souffrance, dans ce que t'endures. Jésus a déjà porté cette douleur-là à la croix pour toi. Et ton Jésus, là, ton Dieu, là, c'est un Jésus, un Dieu de compassion. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Dieu, le Père, avait pas du fun de voir son Fils souffrir sur la croix. Et Dieu, le Père, Jésus n'ont pas de fun à voir souffrir Régent et Herménia et Mimi et Jacques et Jean-Guy et les autres. Non. Change de Dieu, t'as pas le bon Dieu. Hein? Jésus a porté ces souffrances-là. Alors, remets-lui ça. T'es pas tout seul. Et si vous saviez des guérisons intérieures, que ça fait. J'ai assisté souvent à ces gens-là qui ont vraiment déchargé leur douleur sur Jésus qui était à côté d'eux et qui ont reçu vraiment une guérison de l'âme, du cœur. Hein? Alors Dieu, il dit, donne-moi ta douleur. Garde pas ça pour toi. Je l'ai déjà enduré pour toi à la croix. Donne-la-moi, cette douleur-là. Hein? Souffre avec moi, compatis. Et est-ce que la vie chrétienne en est exemptée de la douleur? Pensez-vous, regardez. Paul, il dit, je suis serviteur de Christ. Alors, il devrait avoir une vie exempte de douleur, de maladie, de souffrance. Hein? Non, il dit, les travaux, les emprisonnements, les coups en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Il arrêtait là parce que s'il continuait, il mourait. 3 fois, j'ai été battu de verge, lapidé 3 fois, j'ai fait naufrage. 1 jour et une nuit dans l'abîme, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, de la part des païens dans la ville. Le désert, la mer, les faux frères, au travail, à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim, dans la soif, dans les jeûnes, le froid, le dénuement, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises, j'en ai une petite, là, puis j'en arrache. Hein? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Alors non, Dieu n'a pas épargné Paul de toutes ces souffrances-là. Est-ce que Dieu avait une bonne raison? Ouais. Hein? Dieu avait une très bonne raison. Alors, il n'y a pas une larme qui coule de ton œil, mon frère, ma sœur. Il n'y a pas une larme qui n'est pas recueillie dans l'outre du Seigneur qui est perdu, qui est versé pour rien. D'accord? Il est avec toi dans la maladie. Il est avec toi dans la souffrance. Peut-être qu'on comprend pas pourquoi. Hein? C'est correct. Mais Seigneur, j'ai ce privilège-là que tu sois près de moi. Jamais dans ma vie à moi, j'ai pas vécu grand-chose, mais les moments où j'ai eu mal, les moments où j'étais le plus mal en point, c'est les moments où Jésus a été le plus proche dans ma vie. Tu peux pas respirer une minute sans t'accrocher à Dieu. Tu peux pas vivre avec cette douleur-là. C'est une bouée, là, puis tu t'accroches, tu respires un certain temps. Puis avec le quotidien, ben tu nages, mais là, tu es en train de te noyer. Fait qu'une demi-heure plus tard ou 3 heures plus tard, faut que tu viennes te raccrocher à la bouée parce que c'est pas vivable. Alors, Jésus permet, où Dieu permet qu'on passe à travers des choses, mais soyez garantis qu'il n'y a aucune souffrance, aucune douleur qui est inutile, que vous passez à travers ces douleurs-là. Jésus a, au milieu de ça, le pouvoir de guérir, en tout cas, le cœur, et de se rapprocher tellement de Dieu, là, que on goûte à son amour, on goûte à sa guérison du cœur, à sa présence d'une façon spéciale, que j'ai pas quand tout va bien. Alors, est-ce que Dieu veut guérir? Ouais. Est-ce qu'il veut guérir premièrement? Mon âme, mon cœur. Hein? C'est garanti à la croix. Ça s'arrête là? Est-ce que Dieu peut guérir mon corps? Est-ce que la guérison du corps, la maladie, est incluse à la croix? Bien sûr. Hein? Je ne vous ai pas mêlé, là. Sûr. C'est garanti. Garanti. Hein? Oui, il y a ça aussi. Il parle de notre homme extérieur qui se détruit. Même Lazare, Il est tombé malade, puis il est mort plus tard. Hein? Il n'y a personne qui est exempté de la maladie d'une façon, on pourrait dire, absolue. Hein? Le fait qu'on est dans un corps qui se détruit, la parole vivante, un corps qui s'use petit à petit, si vous êtes dans un petit groupe de personnes plus vieilles, de quoi qu'on parle? Nos bobos! Mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et regardez ça, il dit, les légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ta larme, là, hein, ta larme est pas inutile. Elle porte un poids éternel de gloire, ce que j'endure sur la terre, puis que je donne au Seigneur. Le Seigneur a dit, donne-moi cette douleur, garde-la pas pour toi. Et lorsque je réussis à la donner au Seigneur, ça va produire dans l'au-delà un poids éternel de gloire. Je suis pas en train de vendre la maladie, là. Ça donne le goût d'être malade. Non. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente qui pourrit, est détruite ou se détruit peu à peu, nous avons dans les cieux quoi? Un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, un temple majestueux, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Alors, quelle espérance, hein? Alors, Jésus a porté à la croix mon péché, il a porté ma souffrance, il a porté mes douleurs, et il a porté aussi mes maladies, toutes mes maladies. Dieu, dans sa grande bonté, il veut que je sois guéri physiquement aussi. Hein? Ça a été accompli à la croix il y a 2000 ans. Dieu peut le faire aujourd'hui, mais savoir c'est en application, on pourrait dire, totale, comme la sanctification. La sanctification, quand je vais revêtir mon domicile céleste. Un jour, on va ressusciter, et ce que Jésus a accompli à la croix, on va pouvoir goûter dans un corps glorieux, un corps céleste, où il n'y a pas de maladie. Hein? Donc, lorsque je viens à la croix, lorsqu'on vient à la croix, on peut venir avec notre maladie, on peut venir avec notre trouble physique, si on peut dire, et demander sincèrement à Jésus, dans une prière fervente, de guérir ce corps. Seigneur, prends ma maladie, touche mon corps. Il y a une façon pratique de le faire, c'est l'onction. Reçois l'onction, reçois la touche du Seigneur sur ta maladie. Et selon la volonté de Dieu et selon la foi, si Seigneur vraiment te met cette conviction-là dans ton cœur que il veut guérir cette maladie-là pour qu'il soit glorifié à travers la guérison, gloire à Dieu. Amen. Wow. Mais il se peut que Dieu se glorifie aussi à travers ta maladie. La façon dont tu vas traverser cette maladie-là, ça peut être encore bien plus glorieux qu'une guérison surnaturelle. Puis, lorsque je reçois l'onction, je reçois la main de Dieu qui se pose sur mon corps. Et je vais être en paix avec ce qu'il choisit de faire. Est-ce qu'il veut me guérir entièrement? Il y a une promesse assurée, hein? Il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de mort, ni tristesse, ni souffrance. On n'entendra plus de plaintes, ni de cris de douleur, plus de peine, ni de dur labeur, car l'ancien monde a disparu et tout ce qui fut autrefois a passé pour toujours. Ça, c'est notre espérance. Ça, c'est la guérison qu'il y a à la croix, qui est assurée à 100%. Et si nos légères afflictions du moment nous décourage, pensons à l'héritage, pensons à ce qui s'en vient. Fixons nos yeux sur la récompense, on peut dire, de notre foi. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un souffre? Il prie. Va dans la prière. À chaque fois que tu souffres, va dans la prière et remets ta souffrance au Seigneur. C'est comme ça que j'interprète ça. Hein? On a une responsabilité personnelle de remettre à Dieu cette souffrance-là, de ne pas la porter tout seul parce qu'on s'écrase et on se décourage. Non. Je vais devant Dieu, puis avec foi, je lui remets ma souffrance, puis là, il me montre, comme on a fait avec Jacques vendredi, « Jacques, t'es pas tout seul. Le Seigneur est au milieu de ça. » Tu peux ressentir la présence du Seigneur comme jamais auparavant tu l'as ressenti. Et si quelqu'un est malade, si quelqu'un est dans la joie, ben, chante des cantiques. Mais si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi, qu'est-ce qui va le sauver? L'huile? Non, la prière de la foi sauvera le malade. On revient à notre premier texte. Là, il y a de la foi, il va y avoir l'intervention de Dieu. Et le Seigneur le relèvera. C'est relié au péché, qui a été réglé à la croix aussi. Parce que des fois, la maladie est reliée au péché. Puis à l'époque, on croyait fermement que toutes les maladies étaient reliées à un péché, mais on sait que c'est pas juste. Il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors, est-ce que Dieu veut guérir? Certainement. Est-ce que Dieu va guérir? Certainement, c'est assuré. On va ressusciter dans un corps glorieux. Est-ce que Dieu veut guérir aujourd'hui, présentement, telle personne? Oui, possible. Mais c'est pas la fin. C'est pas la fin. Lorsque je suis sous l'onction de Dieu, j'ai confiance dans le plan de Dieu. Que Dieu, il va le faire en son temps. Et s'il ne le fait pas, ma foi vient de prendre un boost. Hein? Je crois sans voir le miracle, sans voir la guérison. Ça, c'est une foi supérieure à la foi qui a besoin de miracles. Amen.